20h, 21h. Jean-Jean. Flavie Flamand sur RTL.
Jour J, c'est le magazine qui revisite les moments forts de l'actualité et de notre mémoire collective. Ce soir, notre jour J est le 4 novembre 2008. Barack Obama devient le premier président noir des États-Unis. En ce début d'hiver, la température est glaciale à Chicago. Il est minuit et pourtant à Grand Park, cet immense parc qui s'étire au bord du lac Michigan, ils sont des centaines, des milliers même, à s'être réunis et à crier leur joie. Les drapeaux américains virevoltent. On immortalise avec son appareil photo ce moment historique pour pouvoir dire plus tard à ses petits-enfants « Et regarde, j'y étais ». Sur la grande scène, un homme fait son apparition. Il marche d'un pas confiant de ceux qui rassurent et s'installe derrière le pupitre. Le public, lui, est en liesse. Yes, we can. On pourrait croire que la foule est venue assister à un concert et que Jay-Z ou Bruce Springsteen va débarquer d'une seconde à l'autre. Mais rien de tout cela. Celui qui se tient face à eux n'est pas un chanteur. Il est le nouveau président élu des États-Unis d'Amérique et il prend la parole pour son premier discours.
Si jamais quelqu'un doute encore que l'Amérique est un endroit où tout est possible, se demande si le rêve de nos pères fondateurs est encore vivant, doute encore du pouvoir de notre démocratie, la réponse lui est donnée ce soir.
Cette journée est l'une des plus importantes de l'histoire des États-Unis et de l'histoire du XXIe siècle. Aujourd'hui donc, avec 365 grands électeurs contre 173 pour son adversaire John McCain, Barack Obama a été élu 44e président des États-Unis. Il rayonne, il irradie. Et pourtant, quelle fut longue l'histoire de ce pays fondé sur l'esclavage, ce péché originel, comme l'appelait Barack Obama, qui n'avait que 3 ans lorsque Lyndon Johnson mit fin à la ségrégation raciale. Dans son rêve, en 1963, Martin Luther King avait-il seulement imaginé qu'un jour, un président noir et sa femme, descendante d'esclaves, occuperaient la Maison Blanche ? Nous sommes le 4 novembre 2008. Barack Obama devient le premier président noir des États-Unis. Bonsoir à tous. Bienvenue en 2022. Bienvenue dans Jour J.
Jour J, Flavie Flamand sur RTL.
Merci d'être fidèle à Jour J sur RTL et en podcast et tous mes vœux de bonheur pour cette nouvelle année. Ce soir, notre Jour J est une élection historique outre-Atlantique, mais dont le rayonnement a été mondial. Nous sommes le 5 novembre 2008 en France, encore le 4 aux États-Unis. Et voici ce que nous racontait notre envoyé spécial à Chicago, Rémi Sulmont.
La foule est en délire. Effectivement, il y a quelques instants, c'est sur les écrans de CNN qui est retransmis depuis 5 heures ici, que la foule a découvert le visage du nouveau président des États-Unis, Barack Obama. Les gens le répètent, le président Obama est élu président des États-Unis. La foule en délire.
Nicole Bacharan, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté mon invitation. Bonne année tout d'abord.
Bonne année à vous aussi.
Année électorale, mais ça n'est pas...
Ça n'est pas aux États-Unis cette fois-ci.
Vous êtes historienne, vous êtes politologue, spécialiste des États-Unis et vous avez coécrit avec Dominique Simonet Les grands jours qui ont changé l'Amérique aux éditions Perrin. On vient d'entendre notre envoyé spécial, hein, Rémi Sulmont, qui nous dit « La foule est en délire, la foule est en délire ». En fait, l'emphase et les répétitions dans les commentaires de Rémi Sulmont, je dirais, en disent long sur le moment qu'il était en train de vivre.
Ah mais complètement. Et moi, en réécoutant ce son, mais ça me donne toujours le frisson. Ça a été une émotion démente. Et c'est vrai que à Chicago, donc il y avait un grand rassemblement puisque c'était le fief d'Obama, donc la famille est apparue sur la scène, il y a eu un discours, etc. Il y avait une foule énorme, il faisait froid hein, Chicago au mois de janvier, je vous recommande glacial. Pas particulièrement la visite. Il y avait beaucoup de bonheur, mais beaucoup de larmes aussi, énormément, vraiment de gens bouleversés. Et c'est très au-delà du côté démocrate républicain qui est-ce qui a gagné. C'était vraiment une thérapie. pour ce pays dont la suite a montré que c'était pas inutile. Parmi les félicitations les plus chaleureuses, il y a eu George W. Bush, par exemple, donc président républicain, Condoleezza Rice, républicaine très dure. Il y avait vraiment une catharsis pour le pays de l'esclavage, de la ségrégation, et qui avait une grande majorité qui avait choisi un président noir.
Voilà, parce que c'était effectivement une élection historique et une élection symbolique. Et d'ailleurs, en fait, toute la campagne, on y reviendra, de Barack Obama, c'était avoir un pays unifié.
Absolument. C'était l'élection de la réconciliation. En tout cas, on a voulu y croire. Ouais. Et on y a cru, et ça a touché aux États-Unis. Donc voilà, au-delà de l'histoire, au-delà des couleurs de peau, au-delà des divisions, on peut se réunir pour le bien du pays. Mais ça a marché, entre guillemets, si j'ose dire, dans le reste du monde.
Oui, c'est ça.
C'était vraiment
ça, je disais que ça
un espoir de réconciliation. Et l'Obamania, elle était mondiale. Enfin, pour une grande partie du monde.
Alors, une Obamania qui avait commencé un petit peu plus tôt, on y reviendra. Et effectivement, vous avez raison. C'est pour ça que je parlais quelque part d'un rayonnement planétaire. C'est qu'on a tous ressenti, même à distance, en voyant les images de ce moment que vous avez vécu, vous, au cœur de la foule, en tant que journaliste, on a tous ressenti cette émotion qui était palpable. Est-ce que ça tient aussi à la personnalité de Barack Obama?
Oui, bien sûr. Il y avait une magie Obama. Après, on le verra peut-être en partie ensemble. Il y a des choses qu'il a réussies, des choses qu'il a ratées. Bon, le bilan, c'est toujours beaucoup plus compliqué. Mais il a incarné un moment magique. Et je vous citerai par exemple ce qu'avait dit Toni Morrison, la grande écrivaine prix Nobel de littérature, en 1999, donc assez longtemps avant, quand Bill Clinton, qui était très proche de la communauté noire, a eu de gros ennuis avec Monica Lewinsky, etc. La communauté noire l'avait vraiment défendu à fond. Et Toni Morrison avait dit « Clinton, c'est notre premier président noir et le seul que nous aurons de notre vivant ou du vivant de nos enfants. » Et ça, moins 9 ans après l'élection de Barack Obama. Mais ça tenait aux circonstances, ça tenait à l'homme aussi.
Avec
dingue. Son charisme, ce sourire dingue, cette famille aussi extrêmement photogénique.
Alors justement, on sent tout de suite la patte Obama, bien avant l'élection, mais le jour de l'élection, c'est le moment aussi finalement de rendre hommage, je dirais, à sa famille. Et d'abord Michelle, son épouse, son pilier.
L'amour de ma vie, Michelle Obama. Voilà, Barack Obama est en train de rendre hommage à sa femme Michelle Obama qui l'a accompagnée depuis 2 ans dans cette campagne.
Alors, Michelle Obama, il n'y aurait pas eu de Barack sans Michelle.
Je pense que oui, je suis même sûre de ça. Alors que curieusement, elle était contre le fait qu'il se lance en politique. C'est une femme qui tenait beaucoup à sa vie privée, a passé beaucoup de temps à élever ses deux petites filles. C'était pas son idéal dans la vie, mais c'est vraiment elle qui l'a ancré dans la communauté noire, d'ailleurs, qui l'a ancré aux États-Unis, parce qu'il avait quand même un parcours très éclaté. C'était quelqu'un d'un petit peu perdu dans sa jeunesse. D'une certaine manière, c'est une maîtresse femme, et c'est vraiment elle qui l'a structurée. Et il n'y serait jamais allé sans elle. Elle était la personne que les conseillers devaient convaincre avant toute chose. Rien ne se faisait sans elle. Et on a un couple qui est un vrai couple. Alors, depuis à la Maison-Blanche, on a vu des couples différents. Mais c'est vrai que là, l'amour de ma vie, etc., c'est magnifique. C'est, mais ça, c'est pas démenti. Voilà. C'est pas du baratin.
Voilà, c'est sincère. Il s'adresse aussi à Sacha et Amalia, ses deux filles.
Sacha et Amalia, ses deux filles.
I love you both.
Je vous aime
more than you can imagine.
Plus que vous pouvez l'imaginer.
And you have earned the new puppy that's coming with us to the White House.
Et vous avez gagné un chien. Ils vont amener un chien, un puppy à la Maison Blanche, c'est ce que leur annonce Barack Obama.
Alors, est-ce que ça n'est pas ça aussi, Nicole Bacharan, la patte Obama, c'est-à-dire une sorte de proximité? C'est-à-dire, il véhicule les valeurs de la famille et en même temps, il est assez extraverti dans son... Et puis assez simple, quoi. Il parle à ses enfants devant des centaines de millions de téléspectateurs en expliquant qu'il va avoir un chien à la Maison Blanche. Est-ce que c'est pas ça le charme aussi Obama?
C'est pour ça aussi qu'on l'a appelé le Kennedy noir. Ouais. Parce que la famille Obama avait la même magie que la famille Kennedy. Jeune, beau, avec ses petits enfants extrêmement mignons et une modernité, une façon de mettre en scène la proximité dans la politique. Et les deux, Obama, Michelle et Barack, à chaque étape de leur parcours politique, ils ont vraiment fait de leur histoire personnelle l'histoire américaine, l'histoire du rêve américain, tout le côté on part de pas grand-chose ou de rien et tout est possible, si on a des bonnes valeurs, voilà, si on s'occupe de ses enfants, si on travaille dur.
Et on donc, peut y arriver.
Voilà, le mélange politique et personnel est complètement réussi à ce moment-là, en tout cas.
Deux ans de campagne, deux ans pendant lesquels celui que l'on surnommait Barry a progressé doucement mais sûrement et entouré de ce fameux clan, car la vie de Barack Obama, vous l'avez un petit peu sous-entendu, a commencé dans un certain nomadisme affectif et on va y revenir dans un instant dans la suite de Jour J. A tout de suite sur RTL.
Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
Merci pour votre écoute attentive à Jour J. Je sais combien vous y invitez ce soir est finalement chose aisée, car nous parlons d'un président charismatique au destin hors norme, Barack Obama. Mais oui, qui l'eût cru qu'un jour, un homme noir investirait la Maison Blanche? Et qui l'eût cru dans son entourage que le petit Barry, né à Hawaï en 1961, deviendrait l'un des hommes les plus puissants du monde? Nicole Bacharan, vous êtes notre invitée. Merci d'avoir accepté mon invitation en ce tout début d'année. Hein. C'est le premier jour J de l'année 2022 et on est très heureux de pouvoir le fêter avec vous. On va revenir sur l'enfance de Barack Obama. Je parlais d'un nomadisme affectif et je pense que le terme choisi est plutôt bon.
Oui, complètement. Nomadisme affectif, on peut dire aussi racial, culturel, ouais. Géographique même, puisqu'il est né à Hawaï, donc c'est quand même à 5 heures d'avion de la Californie. Hein. Ce sont les États-Unis, mais très loin. Sa mère était une blanche du Kansas qui s'est mariée à 19 ans, amoureuse d'un étudiant africain, Barack Obama senior, qui venait du Kenya. Et le couple s'est défait quand Barack avait deux ans.
Ouais, très tôt.
Et assez rapidement, sa mère est repartie avec un autre homme indonésien qu'elle a épousé, avec qui elle a eu la petite sœur de Barack. Donc il a grandi en Indonésie, n'a revu son père, son vrai père, qu'une seule fois, à l'âge de 12 ans. Mais entre-temps, il était revenu à Hawaï et il préférait rester à Hawaï avec ses grands-parents, donc ses grands-parents blancs. Il était un petit peu toujours le seul noir américain partout où il était, puisque Hawaï, ce sont surtout des Indiens. Il savait pas trop qui il était. Et sa première incursion, si j'ose dire, sur le continent américain, il avait déjà 18 ans quand il est allé à l'université. Il a eu une bourse très, très prestigieuse pour le Continental College à Los Angeles. Donc, c'est pas un noir américain descendant d'esclaves, c'est pas un africain non plus, il est blanc aussi, il a grandi en Indonésie, il étudiait le Coran à l'école. Il est à cheval sur beaucoup de continents et de cultures.
Vous parlez de ses études qui effectivement sont allées très loin. Il avait une maman brillante, une maman très extrêmement brillante. Intelligente.
Très brillante. Et d'ailleurs, il s'en est beaucoup voulu pour s'être intéressé au fond moins à sa mère qui a été quand même un pilier, qui était une femme idéaliste, très brillante, qui a œuvré dans le microcrédit pour les femmes dans les pays pauvres, qui a fait ses études tout en élevant ses enfants. Au fond, il a regretté par la suite d'avoir davantage recherché ce père absent, un peu mythique, que d'avoir vu tout de suite à quel point sa mère était vraiment celle qu'il avait portée.
Et c'est elle qui l'a ouvert d'ailleurs au droit civique et à la cause des Noirs américains.
Et d'ailleurs, c'était assez étrange dans l'enfance d'Obama. Il a raconté tout ça lui-même. Quand il était petit en Indonésie, donc il était vraiment le seul Noir américain dans les parages, il apprenait la langue locale, etc. Il allait à l'école, il étudiait le Coran et sa mère, le soir, lui faisait un peu des cours sur l'histoire des droits civiques. Martin Luther King, Malcolm Comics, enfin toute cette épopée. Et le gamin, puisque c'était un gamin, ne voyait pas trop en quoi ça le concernait. Il n'habitait pas là-bas, son père n'avait jamais vécu ça. Donc sa mère l'a vraiment formé, mais pour lui ça a pris du temps pour que les choses aient du sens.
Et pour que la famille ait du sens aussi, je dirais. Et quand il a rencontré Michelle Obama, il a aussi rencontré sa famille, et notamment Marianne Robinson, qui est la mère de Michelle Obama, et qui tout de suite a pris ce gamin sous son aile, finalement.
Absolument.
Il est rentré dans la famille. Est-ce que c'est là aussi qu'il a trouvé, finalement, un tuteur familial?
Complètement. Je pense qu'il était vraiment à la recherche d'une famille, d'un clan familial qu'il n'avait pas eu. C'est un enfant sans père, très bourlingué quand même.
Ouais, c'est ça.
Et donc la famille Robinson, la famille de Michel, c'était Chicago, le South Side de Chicago, donc un quartier assez dur, essentiellement noir, mais une famille très soudée, très volontaire, où les deux enfants travaillaient beaucoup.
Oui, laborieuse.
L'église, le sport, etc. Et ils ont adopté Barack, il a épousé la famille autant qu'il a épousé
c'est
Michel.
Ça. C'est ça. Et donc c'est comme ça aussi qu'il a pu peut-être aussi prendre cette confiance qu'on lui reconnaît maintenant. C'est-à-dire que c'est un homme dont on a toujours senti qu'il avait un pas assuré, même à quelques minutes d'apprendre qu'il est président des États-Unis, il est plus posé que sa belle-mère qui est super stressée. C'est dans cette famille qu'il a puisé la confiance finalement qu'il dégage.
En tout cas, ça l'a énormément aidé à savoir qui il était.
Ouais.
Je suis un noir américain, un vrai, j'appartiens à une église, alors qu'il n'était pas très croyant, évangélique noire, ma ville c'est Chicago, ma famille c'est les Robinson et puis Michel et les enfants, mais par ailleurs il faut quand même dire que depuis l'âge de 6 ans à peu près, il a très vite compris que dès qu'il entrait dans une pièce, c'était lui le plus intelligent. Et cette confiance-là, elle est venue de lui, elle ne l'a jamais quitté.
Alors, il a pris racine, hein, donc, chez les Robinson.
Absolument.
Mais il était parfaitement conscient de qui il était déjà. Et c'est vrai qu'il était flamboyant. Déjà, il sortait du lot. C'était quoi? C'était un esprit, c'était un charisme, un magnétisme, c'est physique. Parce qu'il avait déjà...
Enfin, il est très beau. Je
Attends,
sais pas, Flavie,
il est grand, il est canon.
Dites tout. Pas que vous n'avez pas craqué en voyant
bien
descendre d'un
si.
Avion.
Bien sûr que si. Non, c'est une grande classe. Il y a quelque chose d'assez animal chez lui.
Il a une belle voix. Il chante bien. Il danse bien.
Enfin, il a tout. Voilà. Il a tout, Barack.
Il est très brillant. Bon, il a été étudiant à Harvard. Il a été le premier noir à diriger la revue juridique, qui est un poste extrêmement prestigieux pour tous les futurs avocats. Et finalement, il a réussi à peu près tout ce qu'il a entrepris, pas toujours, hein, parce qu'il était quand même très ambitieux et voulait aller très vite. Mais bon, il y a une intelligence très brillante, une classe, une manière de se mettre à la portée des gens et de leur parler comme s'ils étaient tous intelligents, et donc de les tirer vers le haut. C'est vrai qu'il y a des gens comme ça, on l'écoute et on se dit « Ah ben oui, j'ai tout compris, et il est drôlement bon ». Donc il est hyper doué. Il est hyper doué.
C'est en 1992 qu'il a son diplôme d'avocat en poche. Il se spécialise dans la défense des droits civiques. Donc là, quelque part, l'héritage aussi, hein, des conversations avec sa mère et ensuite de la famille Robinson. Et c'est là qu'il décide d'entrer en politique.
Absolument. Et il y a une chose que je trouve qu'il faut souligner, parce que c'est vrai qu'on a l'air d'en faire un saint, un être parfait. Et on pourra revenir sur ses défauts, il en a quelques-uns. Mais il faut quand même dire que le départ de son entrée en politique, c'est la lutte contre la pauvreté.
Ouais.
C'est vraiment là qu'il a travaillé quelque temps comme travailleur social, il s'est spécialisé dans les droits civiques. La lutte contre la pauvreté et les discriminations aux États-Unis, c'est la racine de son engagement politique. Une fois qu'il veut faire de la politique, il se dit qu'il est le meilleur et qu'il va aller au sommet. Il n'y a aucun doute dans sa tête. Il est d'abord élu local à Chicago. Il se voit très très vite au Sénat des États-Unis et il prend une raclée. En 2000, il n'est plus personne. Il est jeune, mais il n'est plus personne. Au Parti démocrate, il n'apparaît même pas sur le radar. Et il va rebondir 4 ans plus tard en ayant vraiment retravaillé son affaire.
Mais parce que justement, il avait peut-être besoin de cet échec pour assurer sa victoire. On va se retrouver dans un instant, Nicole Pacharan, car on va revenir sur un discours qui a fait date. À tout de suite.
Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
Comment Barack Obama a-t-il réussi son ascension jusqu'à la Maison Blanche? Sa première élection date du 4 novembre 2008 et c'est notre jour J de ce soir. Merci pour votre fidélité. Nicole Bacharan, vous êtes historienne, vous êtes politologue et notre invitée. Je voudrais que l'on écoute une archive particulière. On dit d'ailleurs que c'est le discours qui a fait tout basculer. On est en 2004, lors de la convention démocrate pour introniser John Kerry, candidat aux prochaines élections présidentielles. À l'époque, Barack Obama, il est sénateur de l'Illinois, il a 43 ans et il prend la parole.
Il n'y a pas une Amérique libérale et une Amérique conservatrice, il y a les États-Unis d'Amérique. Il n'y a pas une Amérique noire, une Amérique blanche, une Amérique latino et une Amérique asiatique, il y a les États-Unis d'Amérique.
Et là, Nicole Bacharan, tout le monde comprend qu'il va falloir compter avec Obama dans les années qui viennent.
Ça a été énorme. Il était très peu connu en dehors des milieux politiques. Là, c'est le jour où il a éclaté sur la scène américaine et sur la scène mondiale. Tout le monde en parlait. Je me souviens des commentaires dans les médias américains, c'était « c'est le prochain président noir, c'est une rockstar ». Et il y a vraiment l'effet rockstar. Je trouve que c'est le terme peut-être le plus approprié. Dans ce discours, déjà, on a découvert son allure, sa voix, son charisme, mais le contenu, c'était miraculeux.
C'est un discours de président.
The rêve américain. Il racontait l'histoire de son grand-père au Kenya, qui était domestique pendant sous l'Empire britannique, de son père, qui gardait les chèvres avant d'aller à l'école et qui a eu une bourse pour une université américaine. Et Barack Obama qui se présente, enfin qui est un élu extrêmement en vue à ce moment-là et qui dit mais il n'y a qu'aux États-Unis que mon histoire serait possible. Il a eu une manière de réconcilier les drames de l'Amérique, drames bien réels, avec l'idée que dans ce pays, tout est possible.
Alors, deux questions sur ce discours. Est-ce que c'est presque un discours d'homme en campagne présidentielle, de façon inconsciente? Parce que ce qu'il dit, c'est présidentiable.
Je suis même pas sûre que ça soit inconscient.
Alors voilà. Donc c'est présidentiable. Et vous me dites, justement, tout à coup, tout le monde se passionne pour ce jeune sénateur de l'Illinois et dit c'est le prochain président. Est-ce que c'est de là aussi que viendrait sa volonté d'aller à la Maison-Blanche? Ou est-ce que ça préexistait ce moment?
Il se dit que c'est possible. Et souvenez-vous, Flavie, je suis sûre que ça a été pareil pour vous.
Si vous me parlez encore du charme de Barack Obama.
Non, mais moi, j'allais vous parler de son nom. Parce que là, on en parle, c'est tellement habituel et familier. Oui. Mais à ce moment-là, il s'appelle comment? Attends, c'est quoi ce nom? Je veux dire, c'était totalement bizarre pour nos oreilles. Et donc, vraiment.
Barack Hussein Obama.
Barack Hussein Obama, franchement, comme président américain, futur. Mais ce que j'aimerais rajouter là-dessus, c'est que ce discours, qui est un pur succès, il ne s'est pas arrivé comme ça. Il a bossé comme une brute. Il a bien courtisé tous les caciques démocrates pour avoir sa place pendant cette convention. Et il a travaillé son élocution, son style. Il se trouvait ennuyeux, professoral, il n'avait pas tort. Et donc, il est doué, assez doué pour remarquer ses défauts, accepter de travailler dessus. Mais il a déjà la volonté d'aller au sommet.
Donc la machine Obama est en marche. Il y en a deux qui ne le savent pas encore, ce sont les Clinton. Qui s'en tichent aussi du petit Barack Obama, quoi.
Dans les archives de ce jour, de ce discours, vous voyez Larry Clinton dans les tribunes qui applaudit. Et moi, je trouve que sur son visage, on sent un certain doute. Mais bon, ils se disent, il est beaucoup trop jeune, personne ne le connaît. Et les Clinton, Bill et Hillary, décident en gros de le prendre sous leur aile, de miser sur cette popularité naissante et d'en faire leur dauphin, leur héritier. Sauf que
Obama, il va comprendre à un moment donné que c'est son moment et qu'il y a des trahisons nécessaires, quoi.
Exactement. Ouais. Il y a beaucoup de trahisons en politique, on le sait. Et beaucoup de gens, et parfois ils ont raison, qui se disent que s'ils n'y vont pas maintenant, ils vont rater leur moment.
Donc il se dit que c'est son moment. On est en 2008, donc 4 ans après ce fameux discours que l'on vient d'entendre, c'est Obama qui remporte le premier scrutin dans l'Iowa en se présentant donc contre Hillary Clinton.
Yes, we can.
Trahison nécessaire, c'est-à-dire que finalement le dauphin s'élève contre Hillary Clinton. Obama, Hillary Clinton, comment va se passer justement cette campagne contre Hillary, basée sur ce « yes we can » qu'on entend et qui déjà marque la politique d'Obama.
Ça a pris tout de suite. Alors qu'Obama lui-même, au début, quand on lui a proposé le slogan, en disant, je suis pas sûre, mais ça a pris immédiatement. Ça veut dire tout est possible, quoi. Ouais. Et c'est vrai que le combat, parce que c'en était un, dans les primaires démocrates, pour être le candidat démocrate, donc face à Hillary Clinton, ça a été très très dur. Ça a duré jusqu'au mois de juin, parce que Hillary était largement favorite. Elle avait verrouillé tous les grands donateurs, tous les cadres du parti. C'est pas arrivé facilement.
Hein. Et les Clinton, ils ont eu des mots durs, là tout à coup, très envers Obama, parce qu'ils se sont sentis trahis aussi par sa candidature.
Ils ont été trahis.
Quand même. Oui, enfin c'est vrai, vous avez raison. On peut le dire quand même. Même Barack trahi.
Bien sûr, on peut. Bien sûr. Et en fait, ça a été, dans la lutte, disons, ça a été, le plus agressif a nettement été Bill Clinton. Parce que lui aussi, c'est un couple fusionnel avec Hillary. très différent des Obama. Mais si on touche à sa femme, il devient extrêmement féroce. Et il a attaqué Obama en disant « Non, mais c'est vraiment un conte de fées, ce qu'il nous raconte, il est absolument pas préparé. » Ou des choses comme « Oui, d'accord, mais même Jesse Jackson, autrefois candidat noir, a gagné en Caroline du Sud, genre, enfin pour dire, bon voilà, il ira pas au-delà de la Caroline du Sud. » Ça a été vraiment très, très douloureux. Il faut reconnaître qu'à la fin, avec une grande classe, Hillary Clinton a fait campagne pour Obama, qui avait gagné. Elle a fait totalement campagne pour lui, très loyalement.
Nous sommes donc au mois de juin. Barack Obama est investi. Il va représenter donc les démocrates et se retrouve dans la course à la Maison-Blanche contre John McCain, le candidat républicain. On en parle dans un instant avec vous, Nicole Bacharan.
Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
Jour J qui vous emmène ce soir dans les coulisses de l'ascension du candidat Obama. Nous sommes en 2008. Le voici donc seul représentant du camp démocrate après une primaire contre Hillary Clinton. Nicole Bacharan, lorsque l'on est investi candidat, il faut choisir ce que l'on appelle un colistier. De quoi s'agit-il pour ceux qui nous écoutent ?
C'est le vice-président. Voilà. Ouais. Si on est élu, le colistier devient vice-président. Et si une fois, si le président, il lui arrive malheur, et ben le vice-président le
prend
remplacera.
Le voilà. Voilà. Ce qui est le cas aujourd'hui avec Kamala Harris pour Joe Biden.
Bon. Exactement.
Alors, à l'époque, donc, d'un côté, nous avons Barack Obama et de l'autre côté, McCain. McCain, il choisit la charmante Sarah Palin. Alors, c'est une femme pourtant absolument inconnue sur le plan national, malgré qu'elle soit gouverneure de l'Alaska. Racontez-nous un peu le profil de Sarah Palin. C'est pour faire plaisir aux conservateurs.
Ah, mais totalement. Moi, j'ai bien connu le directeur de la campagne de McCain et c'est lui qui a déniché, si j'ose dire, Sarah Palin.
La pépite.
Il m'avait raconté ça, en fait. Bon, face à Obama, c'était très difficile de faire campagne. John McCain était âgé, quelqu'un de tout à fait remarquable à bien des égards. Mais voilà, ça prenait pas, ça faisait dater, ça faisait vieillot. Et le directeur de campagne s'est dit, il nous faut quelque chose qui décoiffe. Là.
Ah bah là, c'est...
Voilà.
Ils sont allés
donc
chercher en Alaska.
Ouais. Donc une femme jeune, une élue. Ils ont fait passer tout ça dans leurs ordinateurs et il en est ressorti Sarah Palin, jeune femme, jolie fille d'ailleurs, élue puisqu'elle était gouverneure de l'Alaska. Et ils ont dit à McCain, voilà, c'est avec elle, ça va marcher.
Ouais, alors c'est une façon aussi de faire appel, je dirais, à la couche la plus raciste de l'électorat républicain, hein, on est d'accord. Et c'est une Trump avant l'heure, sauf qu'à l'époque, ça nous faisait rire, Sarah
Palin. Exactement, c'est une Trump avant l'heure. Elle joue sur tous les mêmes ressorts, l'Amérique blanche, chrétienne, anti-avortement, anti-mariage gay. Elle avait beaucoup d'enfants, dont un enfant handicapé. Donc c'était vraiment à faire appel aux plus conservateurs.
Elle faisait peur ou pas
en à vrai... l'époque, elle a fait peur quand même, parce que non pas tellement avec cet aspect, parce qu'on l'a pas tellement prise au sérieux, on a eu tort, mais aussi parce que elle s'est avérée d'une ignorance abyssale.
Ouais, crasse,
ils n'avaient rien vérifié. Mmh. Et donc quand elle a été interrogée, ses premiers médias sur la politique étrangère, mais c'était vertigineux, elle ne savait rien. McCain était pas en très bonne santé, ça a fait peur. Il a monté un petit peu à cause de la nouveauté et il a plongé à cause de l'ignorance.
Voilà, et en fait, c'est ce que je disais, elle s'adressait à la couche la moins glamour peut-être de l'électorat républicain. Elle allait brasser des valeurs qui sont pas super nobles, on va dire ça comme ça. Je voudrais qu'on écoute maintenant une militante républicaine s'adresser à John McCain lors d'une réunion publique.
Je ne crois pas Obama. Je ne peux pas lui faire confiance. J'ai lu des choses sur lui et il est arabe. Il n'est pas...
Non, madame. C'est un bon père de famille, un citoyen avec lequel j'ai des désaccords sur des questions fondamentales et c'est tout le but de cette campagne. Merci.
Alors là, on voit John McCain qui est finalement très dérangé, je dirais, par l'influence de Sarah Palin.
Très choqué. Très choqué, c'est pas du tout.
Il essaie de rattraper le coup, mais c'est pas
du tout son genre. Et d'ailleurs, John McCain a été l'ennemi absolu de Donald Trump et de tout ce racisme et cette bigoterie que Trump a ramené avec lui. McCain était un politicien à l'ancienne. Parfaitement droit et honnête.
Alors d'un côté, on a quand même John McCain qui doit gérer Sarah Palin qui ne lui apporte rien de bon finalement dans sa campagne. Et Obama, lui, qui choisit un certain Joe Biden, candidat lui aussi à l'investiture. Et c'est le choix parfait. Pourquoi ?
Parce que Biden apporte l'expérience. Voilà, Biden, il n'a pas le glamour d'Obama, mais ça, il a à cette époque-là, il est depuis presque 30 ans en politique. Il a été au Sénat président de la commission des affaires étrangères. Il connaît tous les sénateurs un par un. Il est allé aux communions, au bar mitzvah, au mariage, etc. Il a négocié des lois à n'en plus finir. C'est très compliqué. Et il est connu dans le monde entier comme un représentant des États-Unis. Il connaît tous les leaders internationaux. Donc il apporte ce que Barack n'a pas, c'est-à-dire l'expérience.
Donc d'un côté, on a la flamboyance d'Obama, on a une intelligence vive, on a la jeunesse, on a le magnétisme, le charisme. Et donc Obama, à ses côtés, prend quelqu'un qui va lui apporter ce qu'il n'a pas encore. Donc c'est en ça que cet attelage est très fort.
Et finalement, c'est un attelage qui a bien marché alors qu'il se connaissait très peu, qui ne s'aimait pas particulièrement, que honnêtement l'entourage d'Obama n'a jamais inclus Biden, il ne le trouvait pas cool pour faire simple.
Un peu coincé, un peu vieux, un peu vieillot,
voilà. Mais en fait, la confiance s'est vraiment construite entre Obama et Biden. Biden était là, a été de toutes les décisions.
Et Obama et Biden sont restés liés.
Ah, ils sont restés vraiment liés. Et Obama, au moment où Biden a traversé une épreuve terrible, puisqu'il a perdu un de ses fils d'un cancer, Obama n'a pas été seulement son président, il a vraiment été son ami.
Comment s'est passée cette campagne avec d'un côté Obama, Biden et John McCain, Sarah Palin ?
Il y a la question raciale, elle était au premier plan. Et à un moment, Obama a réalisé qu'il ne pouvait pas faire l'économie de prendre ça à bras le corps. Il fallait pas qu'il soit seulement le président de tous les Américains dans une Amérique post-raciale qui arriverait peut-être un jour ou pas. Il a fait un très important discours sur la race où, comme lui, il vient des deux mondes. Il a vraiment expliqué aux uns ce qu'avaient vécu les Noirs américains et pourquoi ils réagissaient comme ceci ou comme cela, mais expliquer aux Noirs américains pourquoi il y a beaucoup de Blancs qui avaient la vie très difficile et qui voyaient pas très bien en quoi ils devraient se sentir coupables et qu'on leur demande des efforts pour des crimes qu'ils n'avaient pas commis. Donc cette question raciale et l'espoir de la réconciliation raciale, ça a été quand même le centre de la campagne.
Et côté républicain, on est allé aussi chercher des mauvais dossiers.
Bien sûr, notamment le pasteur de Michelle et Barack Obama, alors le pasteur de la famille qui avait eu des propos franchement anti-américains, notamment au moment du 11 septembre. Michelle Obama a fait l'objet de beaucoup d'attaques sur le thème, voilà, c'est une femme à poigne qui mène son homme à la baguette, qui n'aime pas les États-Unis. Enfin, il y a eu beaucoup d'attaques très très dures. Mais à un moment, quand on regardait les débats, les deux hommes étaient des gens remarquables, mais l'un incarnait le passé et l'autre, avec un seul sourire, il incarnait l'avenir.
Voilà, et Barack Obama est donc le premier président noir des États-Unis, élu le 4 novembre 2008. 4 ans plus tard, il récidive. 4 more years, et on en parle dans un instant.
Jour J, Flavie Flamand sur RTL.
Jour J qui se poursuit, merci à vous de nous être fidèles. Barack Obama, il est donc élu le 4 novembre 2008, Nicole Bacharan, mais pour la première fois, parce qu'en fait, 4 ans plus tard, c'est reparti pour un tour, on va y revenir dans un instant. Qu'est-ce qu'il a fait de ses 4 premières années de mandat? C'est quoi le bilan?
Il a déjà sorti l'Amérique d'une crise financière épouvantable. La crise de 2007-2008, la crise des subprimes, on l'a oublié depuis, il s'est passé tant de choses, mais il a vraiment sorti les États-Unis de cette crise.
Et d'ailleurs, j'invite nos auditeurs à se tourner vers le jour J spécial, justement, subprime, en podcast, parce que c'est une façon de comprendre aussi une partie de l'histoire des États-Unis et évidemment de la crise qu'on a tous vécue ensuite.
Il a réussi, avec une bataille de plus d'un an, à imposer sa réforme de la couverture médicale, Obamacare. C'était pas totalement la réforme qu'il voulait, mais il a quand même réussi à donner une assurance à 20 millions d'Américains qui n'en avaient pas. Il a introduit beaucoup de réformes sur le plan de l'environnement. Alors c'est moins des lois que des régulations sur les émissions, les investissements dans les énergies renouvelables, etc. Il a adhéré à l'accord de Paris, il a vraiment... Il l'a porté aussi sur le plan international, cet accord de Paris sur le climat. Il a réussi à faire passer un accord avec l'Iran sur le contrôle de leur programme nucléaire. Bon, un accord qui n'était pas parfait, mais enfin qui était mieux que rien et que Donald Trump a détruit entre-temps. Là, je pense que ce sont quand même les éléments les plus forts de son programme qu'il a réussi à faire passer.
Et ce qu'il n'a pas réussi à faire, ou en tout cas ses échecs ou ses manquements ?
La réforme sur le contrôle des armes.
Ouais.
Et je pense que vous vous souvenez certainement d'images où on le voit pleurer à chaudes larmes.
Ouais, ouais.
Après le massacre de 20 enfants dans une école maternelle dans le Connecticut, rien n'y a fait, il s'est battu comme un beau diable, il n'y a eu aucune réforme sur le contrôle des armes et il y en a toujours pas eu.
Ouais,
je pense
sûr.
Que pour lui, c'est un de ses échecs les plus cuisants.
Est-ce qu'il s'est dit en 2008 qu'il allait remettre ce dossier-là sur le tapis, puisqu'il a décidé de se représenter ?
Tous les dossiers. Il n'a jamais envisagé de ne faire qu'un seul mandat.
Ah oui, il savait dès le départ qu'il partait.
Lui, il voulait partir pour 8 ans. Et ce qui m'a marqué le plus dans la campagne de 2012, donc sa deuxième campagne, c'est Michelle Superstar.
Ouais.
Elle qui était assez rétive à la politique, au discours public, qui a contrôlé son image au maximum à la Maison Blanche. Souvenez-vous du potager, des danses, des actions avec les enfants. Elle est arrivée à la Convention démocrate de 2012 avec une robe sublime. Je me souviens très bien de la robe. Et elle a raconté à nouveau leur histoire avec des phrases comme « On était tellement amoureux et on était tellement endettée. » Et ça, elle dominait ça de très très haut. D'ailleurs, sa popularité a toujours été très très supérieure à celle de son mari.
Donc ça veut dire que son investissement a concouru à la réélection de son mari ?
Complètement. Ouais. Ils ont fait, l'un et l'autre, un parcours impeccable à la Maison Blanche. Il n'y a pas eu de scandale, ni sexuel, ni familial, ni financier.
Irréprochable.
Et pourtant, ils ont quand même été sous la loupe, constamment.
Est-ce qu'il partait favori pour cette nouvelle élection, en sachant qu'il affrontait Mitt Romney ?
Plutôt favori, parce que malgré tout, son mandat n'était pas parfait, mais il y avait un certain nombre de réussites. Mais je me souviens du premier débat face à Mitt Romney. Romney très préparé, c'est un gros bosseur. Et Obama, mais mauvais, vraiment mauvais.
Ouais.
Et en fait, son entourage s'est rendu compte que ça faisait 4 ans que personne n'avait débattu sérieusement avec lui, qu'il était rouillé, qu'il ne savait plus faire. Michel a engueulé tout le monde, pas son mari, mais tout le monde, en leur disant « D'abord, il faut qu'il ait tel hôtel, telle nourriture, tel coup de fil, à telle heure, son heure de sport, vous le laissez se reposer, et il faut qu'il bosse. » Et le deuxième débat a rassuré tout le monde.
Et il est arrivé brillant, toujours en tandem avec Biden.
Exactement, ça a été indéfectible, une très grande loyauté entre les deux.
Alors au final, les Américains de 2012 ont réclamé 4 more years, donc, et Obama a été réélu. La suite, on la connaît. Après Obama,
Trump.
C'est Trump.
Plus dur sera la chute.
Après Trump, c'est donc le vice-président d'Obama, Joe Biden, cette fois-ci avec Kamala Harris, sur laquelle on fondait beaucoup, beaucoup d'espoir. Qu'en est-il aujourd'hui de la politique aux États-Unis ?
Eh bien, c'est vrai que Kamala Harris, dont on se dit toujours, comme selon la formule, elle est un battement de cœur du bureau ovale, pour l'instant, elle ne convainc pas. Bon, c'est très difficile d'être vice-président. Il ne faut pas qu'elle attire la lumière. Il ne faut pas qu'elle dise « j'ai décidé que ». Elle est toujours en second.
Donc, elle a presque éclipsé, Biden à une époque, hein, d'un point de vue médiatique.
Oui,
c'était
parce
incroyable.
Que c'est une belle femme, charismatique. Elle explose beaucoup de plafonds de verre à elle toute seule.
Oui.
Beaucoup de nouveautés. Là, pour l'instant, c'est un peu faible. Et on se demande si elle est bien préparée au cas où il faudrait.
Et pendant ce temps-là, Obama, il joue de la guitare avec Bruce Springsteen.
Donc Obama, quand il a quitté la Maison Blanche, il a beaucoup voyagé dans les pays chauds, à Bali, à Tahiti, on l'a vu sur des bateaux en train de faire la plongée, etc. Mais plus sérieusement, il a écrit ses mémoires.
Oui, c'est vrai.
Avec Michel, ils ont reçu une avance à tous les deux de 65 millions de dollars.
Donc on ne s'inquiète pas trop.
Pour leur mémoire. Ils ont signé un grand projet avec Netflix, avec un documentaire d'ailleurs qui a eu un Oscar et beaucoup d'autres projets de films. Sa fondation présidentielle à Chicago, qui est en cours de réalisation, parce que tout a été ralenti par le Covid. Donc, c'est une retraite très active.
Vous l'embrasserez de ma part ?
Je n'y manquerai pas.
Merci beaucoup, Nicole Pacharan.
Merci à vous.
Bonne année à vous. Et vous souhaiterez une bonne année à Dominique Simonet, qui co-signe Les Grands Jours qui ont changé l'Amérique aux éditions Perrin. Merci, Nicole. À bientôt.
Merci.